Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de vous être rendus disponibles pour cette réunion du conseil municipal. Donc on a un certain nombre de personnes qui sont absentes et excusées. Franck Pupier qui donne son pouvoir à Claude Bruno. Florence Joly qui donne son pouvoir à Michel Bisaccia. Paul Wolf qui donne son pouvoir à Jean-François Sahuc. Pascal Convert, des nouvelles, son état de santé, non ? Jean-Pirol, d'accord. Qui donne son pouvoir à Christine Gezins. Pierre Achard, qui donne son pouvoir à Antoine Di Paolo. Et Claude Bougot, qui me donne son pouvoir. Et il y en a encore un, je crois. Marie-Jeanne Scherrer, qui donne son pouvoir à Rémi. Elle vient d'apprendre qu'un de ses petits qu'elle garde était Covid, donc elle préférait ne pas venir. Voilà. Ou alors il s'est parmi de son attestation de geste qui sauve, mais il était là tout à l'heure. Hein. Ah ouais? Bon, enfin. Alors, je me suis permis de faire un compliment il y a quelques instants. Non? Bon, j'ai dit que la jeunesse était rassemblée du même côté. Et on... Oui, non, mais. Ouais, qu'est-ce qu'on met derrière le terme jeunesse, hein? Bon. Allez. J'ai pas dit de quel côté, enfin bref. Oui. Elle a été opérée du dos. Bon, ben, on va continuer. Donc, le procès-verbal de la précédente séance, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce procès-verbal? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Premier point donc, de cette réunion, c'est l'état des décisions du maire. Donc, il s'agit des décisions de la décision numéro 16 à la décision numéro 29. Bon, je n'ai rien remarqué de particulier à commenter dans le tableau que vous avez reçu. Donc, il y a beaucoup de prestations de services qui gravitent autour de la petite enfance. Et puis, les coûts, bien sûr, du séjour vacances pour cet été. Des questions par rapport à ça? Le point numéro 2 concerne donc le résultat de l'appel d'offres pour le marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et l'intégration de locaux petite enfance. Conformément au code de la commande publique, une procédure d'appel d'offres a été lancée pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et l'intégration des locaux petite enfance. Lors de sa réunion du 7 avril 2022, au vu de l'analyse technique et financière de l'offre, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché à l'atelier d'architecture Riva. Vous avez reçu avec le conseil un document de synthèse sur cette proposition de prestation. Les frais d'honoraires de l'entreprise sont de 12,5% sur une base prévisionnelle des travaux, estimée à 2 275 000 euros hors taxes. Donc, il y avait 45 cabinets d'architectes qui ont soumissionné. On a fait un premier tri en fonction d'un certain nombre de critères, qui étaient des critères, bien évidemment, de compétences, d'expertise. C'est-à-dire qu'on est allé voir des cabinets d'architectes qui avaient déjà travaillé sur des réhabilitations et innovations de groupes scolaires. On a intégré également la proximité géographique, puisqu'on en avait qui était sur Rhône-Alpes, mais il y en avait sur Clermont, il y en avait également sur la vallée du Rhône. Donc on a opté aussi pour cette option. Et on avait retenu 3 cabinets, le cabinet Riva, les ateliers du Verger et Équilibre. Équilibre, c'est le cabinet architecte qui a réalisé le CDAT. On a rencontré les 3 architectes. Alors, assistance à la maîtrise d'œuvre. On a eu un débat avec Michel, Jacques, Frédéric Billon et Jean-Pierre Roll. Nous, on pensait avoir qu'une petite esquisse d'un projet et un chiffrage. des coûts globaux. Et on nous a expliqué que ce n'était pas ça du tout, que c'était simplement pour choisir un cabinet d'architecte qui ensuite, justement, allait nous proposer un projet à débattre, à négocier et, bien évidemment, un budget. Donc, on les a rencontrés. Le cabinet Riva, qui est le premier que nous avons rencontré, nous a dit, écoutez, bon, il est très impliqué dans tout ce qui est réhabilitation et rénovation. C'est lui qui a fait le deuxième bâtiment d'article 42 sur la commune. Et lui, sa stratégie, c'est le bâtiment passif, avec jusqu'à la labellisation passive Haus, qui est une labellisation allemande. Et il nous a dit, en définitive, si vous ne voulez pas entrer dans ce cheminement, c'est votre droit, ce n'est pas la peine de retenir ma candidature. Les ateliers du Verger étaient également très intéressants dans leur démarche et dans leur expérience, mais étaient un peu plus techniques dans leur approche. C'est là qu'on a découvert qu'on pouvait envisager des options avec de la géothermie, mais pas la géothermie, on va chercher dans la nappe phréatique, la géothermie, on va chercher dans le sol, etc. Quant au dernier équilibre, il nous a semblé pas franchement... il était compétent, mais un petit peu sous-dimensionné par rapport à notre attente. Voilà un petit peu l'approche qu'on en a eue. Et puis la commission d'appel d'offres a donc choisi... Alors on a noté un premier paramètre qui était celui du prix, donc les honoraires, pour 40% et pour 60% une note technique. Et donc c'est le cabinet Riva qui est arrivé en premier. Suivi de très près par les ateliers des Vergers. Mais c'est vrai que M. Riva nous a semblé être plus dans une logique d'écoute et d'adaptation à nos besoins, à condition que nous soyons en capacité de bien définir ce qu'on veut. Très ouvert aussi sur l'avis des utilisateurs, que ce soit les enseignants, les personnels, les parents d'élèves. Les deux l'étaient de toute façon dans cette démarche. Donc le plus qu'avait Riva, c'est qu'il ne s'est pas refermé sur le projet existant. Les deux autres avaient pris les schémas qu'on vous avait déjà présentés, avec les deux bâtiments, maternel et élémentaire, les adjonctions d'espaces supplémentaires, ils ont travaillé là-dessus. Riva l'a fait en disant, mais bon, ça c'est une hypothèse, mais on peut-être, pourquoi pas, tout regrouper sur un seul bâtiment, on peut-être à un endroit ne pas faire une extension, et puis sur l'autre faire un étage. Enfin, je veux dire, il n'est fermé à aucune hypothèse de travail. En termes de besoins, en termes d'évolution aussi, il a bien intégré l'ensemble des paramètres et puis il va donc jusqu'à la certification passive à hausse. Alors, cette notion de bâtiment passif qu'il pratique engendre vraisemblablement quelques surcoûts, mais à l'inverse, en rentrant dans cette mécanique, on peut-être obtenir des financements supplémentaires. Je pense par exemple à la filière bois. À partir du moment où on va aller chercher du bois local, du Pilat ou des forêts du Massif central, l'ADEME peut subventionner. Donc il y a cette première approche. Et puis, je dirais aussi que dans sa démarche, les ateliers des Vergers étaient un petit peu dans la même logique, c'est de dire on préfabrique énormément d'éléments en usine, en particulier tous les éléments d'isolation, qu'ils soient en matériaux ou particules de bois. Ce qui fait que, en termes de chantier, ils amènent la cloison extérieure, ils la posent. Donc, on a beaucoup moins d'ouvriers qui travaillent sur le chantier, qui font de la découpe, qui créent des pollutions et des nuisances sonores, comme pour un chantier traditionnel. Donc il y a aussi tout cet aspect qui nous a semblé important, de prise en compte de la problématique d'un chantier quand on rénove un groupe scolaire. Enfin, dernier élément, c'est que sur les trois équilibres, on nous a dit votre enveloppe de 2 275 000, ça risque d'être un peu juste. Les deux autres, les ateliers des Vergers et le cabinet Riva, nous a dit que ça devrait passer. Au regard des coûts actuels, entendons-nous bien. Ils ne se projettent pas sur les coûts des matériaux. Mais bon, par exemple, si c'est surtout du bois, ça reviendra beaucoup moins cher que si on a de la structure acier ou métal. Ce qui nous a semblé aussi intéressant dans sa démarche, c'est que lui, bon, il est en train de rénover un groupe scolaire à Taluyer, 11 classes. Donc là, si on va au projet maximum, c'est 12 classes. Et en fait, il était dans une enveloppe d'1,9 million, en disant, vous voyez, bon, vous, avec 2,2 millions, même s'il faut rajouter la petite enfance, ça devrait pouvoir passer. Donc, c'était des propos plutôt rassurants. Après, il y aura l'évolution inévitable du coût des matières premières, ça c'est certain. Et puis surtout, je pense qu'avec Riva, on risque d'avoir une ou deux ou trois options, ou un projet principal avec des options à côté. Voilà. Mais il ne s'interdit dans sa démarche aucune proposition. Donc c'est en ça que ça nous a semblé aussi intéressant, ce qui a pesé dans la note technique, c'était effectivement de dire, bon, ben, il sera à l'écoute, et puis je crois qu'il sera en capacité de, d'abord de comprendre notre besoin, mais nous, on n'est pas non plus tous des spécialistes, et de s'adapter à l'ensemble des besoins, et puis surtout de nous restituer un projet qui sera évolutif. Dernier point, c'est le calendrier des travaux. Les trois se sont engagés pour une livraison à la rentrée 2024. Là aussi, il ne faut pas être trop naïf. Il peut y avoir des imprévus, des intempéries, il peut y avoir des contraintes de dernière minute. Des contraintes techniques, je ne pense pas, parce que ce n'est pas un gros bâtiment dont on va aller découvrir les charpentes ou les sous-sols, comme ce fut le cas au Clos Bayard. Non, je pense qu'effectivement, c'est un bon choix. J'espère qu'on tiendra à peu près le budget. Et puis maintenant, il va falloir qu'on... Oui ? Il va falloir qu'on aille chercher, je dirais, les subventions. À ce sujet, on a rencontré Mme Bussière, qui est conseillère départementale, qu'on voulait rencontrer. Donc, on lui a parlé du centre-bourg Epora. On lui a parlé de l'école, bien évidemment, où là, il devrait intervenir de façon assez conséquente, la région. On lui a aussi parlé du lycée Nord, même si ce n'est pas son domaine de compétence, les lycées, c'est quand même la région. On lui a parlé aussi un petit peu de la Villa Saint-Michel et puis surtout de la vidéoprotection, où là aussi, on doit pouvoir aller chercher des subventions qui seraient déterminantes. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc le Conseil n'a pas à valider le choix de l'architecte puisque c'est la commission d'appel d'offres qui l'a fait. Donc voilà, c'est une information. Donc maintenant, on vous tiendra... Comment ? Ça se vote ? Ouais. Et le choix, il est fait. On est d'accord. Donc il est demandé au Conseil municipal de m'autoriser à signer les pièces relatives au marché à intervenir avec cette entreprise. Avez-vous des questions par rapport à ce dossier qui, en fait, quand on y réfléchit bien, va être le sujet, peut-être le dossier le plus sensible et le plus, comment dire, le plus stratégique de notre mandature. Parce qu'après, on verra comment on gérera la problématique avec Jean Massé, mais là aussi, il faudra qu'on se prononce très rapidement sur ce qu'on décide. D'autres questions ? Michel Cosset.
Oui, simplement pour rajouter quelques infos. L'agenda est très, très serré, comme les travaux sont en site occupé. Donc tous les travaux de construction d'architecture se feront en atelier, d'une part. Et d'autre part, le candidat équilibre, je crois, fermait carrément le mois d'août. Donc ça a été un élément de décision assez conséquent.
D'autres questions ? Donc maintenant, on a validé effectivement le choix au cabinet Riva. On va travailler avec lui, commencer à rencontrer les usagers. Et puis nous, bien évidemment, il faut qu'on tienne notre budget. Il faut qu'on même passer du budget à la question du financement, combien on va dépenser en décembre, en janvier, en février. Et puis, comme je vous disais, il faudra qu'on s'interroge très sérieusement sur l'opportunité de l'optimisation de Jules Ferry. Quand est-ce qu'on le fait ? Quand est-ce qu'on l'annonce ? Et comment on s'y prépare ? Si on est certain... Donc on verra alors en termes d'opportunité. Ouais. Bon. Donc voilà, on vous tiendra au courant parce que non, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Si on est certain, et ça va être l'axe qu'on va avoir avec Riva, qu'ils tiennent les délais, pour nous, ça sera important parce que vous comprenez bien que si on est certain que la nouvelle école est opérationnelle à la rentrée 2024, au pire, en fin d'année 2024, et qu'on regroupe avec Jean Massé, c'est une hypothèse, c'est pas une certitude, nous, derrière, ça nous permettra de réfléchir à la vente du site de Jean Massé dès la fin de l'année 2024, voire début 2025. Là, il y a un enjeu quand même qui est conséquent. Donc, on va passer au vote. Qui est contre le fait de m'accorder la possibilité de signer tous les documents liés à ce dossier? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, et je vous en remercie.
Oui.
Le point 3, désaffectation et déclassement, domaine public, désaffectation et déclassement d'une partie du domaine public en vue de sa cession à la société SCI Fordu. C'est Bader. La mezzanine située au premier étage de l'espace Saint-Prix et Loisirs étant devenue inutile à l'usage de la salle polyvalente, et dans la mesure où la société SCI Fordu Bader, souhaitait agrandir ses locaux, par délibération 21-03-14 du 23 mars 2021, le conseil municipal a proposé de lui céder. Cet espace comporte une plateforme donnant accès à des locaux techniques fermés à clé et donc inaccessibles et interdits au public. Or, dans les faits, si cette mezzanine est bien désaffectée depuis de très nombreuses années, aucun acte juridique n'en a prononcé le déclassement. Dès lors, préalablement à la vente au profit de la SCI Fordu, sur laquelle le conseil municipal s'est prononcé lors de sa séance du 22 mars 2021, il convient d'en prononcer le déclassement du domaine public et de l'intégrer au domaine privé de la commune. C'est une obligation strictement juridique. Hein. Il est demandé au conseil municipal de constater la désaffection de la mezzanine de l'espace Saint-Prié-Loisirs tant qu'elle n'est pas ouverte au public ni utilisée pour un service public. D'en prononcer le déclassement du domaine public et de l'intégrer au domaine privé communal. D'approuver la cession de la mezzanine, lot de volume numéro 2, au profit de la SCI Fordu, moyennant le prix de 35 000 euros, et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Je vous rappelle qu'il sera créé une division du bâtiment en lot de volume, dont les frais sont à la charge de la SCI Fordu, que les frais d'honoraires de géomètre expert pour l'établissement de l'état descriptif de division sont pris en charge à hauteur de la moitié par la commune et de l'autre moitié par la SCI Fordu. Et que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Donc c'est une régularisation juridique qui nous permet enfin de vendre cette mezzanine. On était sur le point de signer, c'est la notaire qui a dit « Ah oui, mais il faut que ce soit passé dans le domaine privé pour pouvoir vendre ce bien. » Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, et je vous en remercie. Alors au sujet des ventes, j'ai signé il y a maintenant 2 semaines la vente, vous savez, d'une partie du terrain que nous avions mitoyé entre le CTM et le site Imperator à M. Masson. Donc c'était en cours de négociation. Ça avait un peu traîné, donc on a signé la vente la semaine dernière. Pour combien, Frédéric? 9 500 euros, c'est ça. Le point numéro 4, c'est la reprise de concession du cimetière en état d'abandon. Lors de la séance du 11 juin 2018, le conseil municipal a lancé la procédure de reprise de concession abandonnée du cimetière. Je vous demande de vous prononcer sur la reprise par la commune des concessions listées ci-dessous dans le cimetière communal ayant plus de 30 ans d'existence et dont l'état d'abandon a été constaté à 2 reprises, à 3 ans d'intervalle, les 15 octobre 2018 et 1er mars 2022, dans les conditions prévues par l'article R 2223-13 du Code général des collectivités territoriales donne aux communes la faculté de reprendre les concessions en état d'abandon. Vu le Code général des collectivités territoriales, donc notamment les articles 2223-17 et 2223-18, considérant que les concessions dont il s'agit ont plus de 30 ans d'existence, que la dernière inhumation remonte à plus de 10 ans et qu'elles sont en état d'abandon selon les termes de l'article précité, considérant que cette situation constitue une violation de l'engagement souscrit par les attributaires des dites concessions en leur nom et au nom de leurs successeurs, de la maintenir en bon état d'entretien et qu'elle nuise au bon ordre et à la décence du cimetière, il convient donc de décider que les concessions listées ci-dessous dans le cimetière communal sont réputées en état d'abandon. Donc il y a 27 concessions qui sont identifiées. Vous avez eu le temps peut-être de les regarder. Donc je vous demande de m'autoriser à reprendre les dites concessions au nom de la commune et à l'issue de la procédure d'abandon, de la reprise administrative et matérielle des dites concessions, de les remettre en service pour de nouvelles inhumations en les réattribuant sous forme de nouvelles concessions d'une durée de 50 ans. Avez-vous des questions par rapport à ça? Oui. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des situations de concessions abandonnées. Quand on va au cimetière, on les voit tout de suite. Hein. Vous avez des petites cartes qui sont posées dessus, qui interpellent éventuellement les successeurs ou les familles pour qu'ils réagissent. Donc là, on en a donc maintenant 27 pour lesquels on n'a pas eu de réponse. Des questions? Oui. Elle promène son chien dans le cimetière, c'est très bien. Alors, plus sérieusement, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, donc les reprises sont validées. Je vais passer maintenant la parole pour la question numéro 5 à Michel Bisaccia.
Oui, bonsoir. Donc, vous savez, on appelle ça dans les journaux les marronniers, hein, c'est les choses qui reviennent régulièrement. Les admissions en non-valeur en font partie. C'est des sommes, vous savez que le comptable de la commune et qui est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter toutes les recettes et les dépenses de la commune et de poursuivre la rentrée de tous ses revenus et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Alors là, la première délibération concerne en fait des sommes qui sont en dessous du seuil de poursuite. Parce qu'effectivement, le trésorier, le comptable de la commune est tenu d'engager des poursuites pour arriver à récupérer de quelque façon que ce soit les sommes qui sont dues. Mais il y a un plafond de 15 euros en deçà duquel le comptable ne lance pas de procédure. Parce que je pense que ça nous reviendrait plus cher que de récupérer les sommes. Donc vous voyez, il n'a pas pu procéder au recouvrement de restes à recevoir inférieurs au seuil de poursuite pour les titres de recettes suivants. Donc vous voyez, ce sont en principe des soldes de droits d'inscription. Il y a un petit solde de TLPE, mais pour 60 centimes. Enfin, sur tous ces listés, il y en a pour 24,02 €. Et nous demandons donc d'admettre en non-valeur ces titres pour un montant de 24,02 €. Et d'émettre un mandat au compte 65-41, admission en non-valeur, dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2022 du chapitre 65. Voilà. Puis vous avez derrière, effectivement, l'attestation du comptable qui dit effectivement ce sont des sommes en dessous de ce qui est possible. Voilà.
Des questions? Il y en a plusieurs qui suivent comme ça. Donc là, on était plutôt sur des droits d'inscription dans les services de la mairie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je repasse la parole à Michel pour le deuxième point, la question, le point numéro 6.
Oui, alors c'est le même cas, hein, c'est les admissions en non-valeur, mais cette fois-ci sur la facturation de la distribution d'eau potable. C'est pareil, hein, on vous rappelle donc qu'il est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Je ne vais pas vous relire le chapitre. Le comptable du Trésor, donc qui s'appelle Monsieur Balmont, n'a pas pu procéder au recouvrement de factures d'eau émises sur les exercices de 2013 et 2015. Il incombe au conseil municipal d'autoriser l'admission en non-valeur de la part assainissement et de la part eau des dites factures émises avant la date de transfert de compétences de l'assainissement et de la gestion de la distribution d'eau potable à la communauté d'agglomération sur le budget de la commune. Donc, on a là aussi, vous voyez, ce ne sont pas des sommes très importantes, l'admission en non-valeur pour un montant total de 29,46 euros. Donc, il y a 5,31 euros pour l'eau et 3,85 et 9,16 pour l'assainissement pour l'année 2013 et pour l'année 2015, ça doit être la différence. Voilà. Donc là, pareil, je pense que c'est les mêmes choses. On voit derrière qu'effectivement, ce sont des sommes qui sont en dessous du seuil de recouvrement, de poursuite, pardon. Donc, je vous demande donc de m'autoriser à constater la perte sur les créances irrécouvrables en admettant les factures émises avant la date du transfert de compétences de l'assainissement et de la gestion de l'eau potable à la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole au budget communal, donc pour un montant de 29,46 euros TTC, et pareil, émettre un mandat au compte 6541 dont les crédits sont ouverts au budget 2022 de la commune. Les montants des admissions en non-valeur mandatées pour ces factures fera l'objet d'une demande de remboursement auprès de Saint-Étienne Métropole. Donc là, on va recouvrer la somme puisque c'était en 2013 et 2015, on n'était encore pas sous gestion de Métropole, mais Métropole va nous rembourser pour la perte à recevoir. Voilà.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? À l'unanimité. Troisième point, c'est le point du jour numéro 7, là aussi. Je laisse la parole à Michel.
Alors là aussi, c'est la même chose, mais c'est un petit peu plus important parce que ce sont des sommes qui sont un petit peu plus importantes. Donc là, il y a eu, et vous le verrez dans les pièces suivantes, les pièces qui sont jointes à la délibération, il y a eu des poursuites, il y a eu tout ce que le comptable pouvait faire pour essayer de recouvrer ces sommes. Mais vous avez vu que ce sont des sociétés qui ont été déclarées en liquidation judiciaire. Et donc, après, il n'y a plus possibilité, puisque vous savez que ce genre de créances ne fait pas partie des créances prioritaires. Il y a d'abord les impôts, l'URSSAF, tout ça. Et après, souvent, l'eau, on n'a plus de sous pour rembourser. Donc, pareil, on reprend la délibération. Donc, on vous réexplique encore que le comptable de la commune est seul chargé d'exécuter les recettes et les dépenses. Donc, il n'a pas pu procéder au recouvrement de titres émis sur l'exercice 2013 à 2019, qui sont éteints par la procédure de liquidation judiciaire. Il incombe donc au conseil municipal de constater l'extinction des créances. Là, ce n'est pas une admission en non-valeur, c'est carrément une extinction des créances. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il demande donc l'admission en créance éteinte de titres pour le montant total de 7 580,26 €, dont la répartition est la suivante. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs de la société intégrale. Il y en a pour la société de Haro et la Bonheur type D. À la Bonheur. La Bonheur type DEL. Voilà, tout ça fait un montant effectivement de 7 580,26 € TTC. Donc, il vous demande d'autoriser à admettre ces créances les titres précités pour un montant de 6 759,78 € hors taxe, soit une TVA de 820,48 € et un TTC de 7 580,26 €. C'est pareil d'émettre un mandat au compte 6142 qui est effectivement prévu au budget. Et puis ensuite, vous avez toutes les pièces qui vous prouvent qu'effectivement, parce qu'on pourrait, nous, refuser s'il était prouvé que le comptable du Trésor n'avait pas fait les poursuites nécessaires. S'il n'avait pas fait son travail et qu'il n'ait rien fait pour les récupérer, on serait tout à fait en droit d'exiger de lui qu'il le fasse ou de le mettre en ce qu'on appelle en débet, c'est-à-dire en position que ce soit lui qui paye les pertes de la commune. Voilà, ce qui n'est pas le cas, effectivement, on se rend compte que c'est bien. Alors, maintenant, c'est quand même mieux parce qu'on le fait quand même régulièrement. Quand on est arrivé dans les années 2013-14, on avait des percepteurs qui n'avaient pas fait ça pendant 20 ans et on s'était retrouvé avec des sommes fabuleuses parce qu'on avait retrouvé des créances éteintes ou des admissions en non-valeur qui étaient très importantes et ça nous plombait un peu le budget. Là, maintenant, on prévoit toutes les années une somme parce qu'on sait que malheureusement, il y en a toujours, mais au moins, c'est fait régulièrement et ça, pour ça, c'est quand même agréable. Voilà.
Michel, excuse-moi, c'est Corinne Mourgue, pardon. Tu nous avais déjà dit, mais je me souviens plus, la TLPE, c'est
la taxe locale pour la publicité extérieure. Voilà, ce qu'on demande aux communes quand elles ont des enseignes. Et souvent, c'est des communes. Là, c'est les trois sociétés qui ont déposé. Donc, Ils se sont pas bousculés pour payer la TLP.
Alors, c'est une taxe qu'on appelle. Vous vous souvenez qu'en 2020, on a décidé, puisqu'il y avait eu le problème du Covid, pendant 3 mois, de faire un dégrèvement de 25% que les entreprises ont rencontré en 2021, puisque nous, on a un décalage d'un an. Et cette publicité donc extérieure, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure, maintenant va être régie par le RLPI, donc le règlement local de la publicité intercommunale, très prochainement, qui pose des conditions, on en avait déjà parlé, beaucoup plus contraignantes en termes de dimension de publicité, en termes de cohabitation de publicité, en termes d'éclairage nocturne, en termes de typologie de publicité. Donc tout ça, ça va rentrer en compte très prochainement, enfin c'est 2025-2026. Et d'ailleurs, on a rencontré un chef d'entreprise qui s'installe prochainement à la Bargette, anciennement dans les anciens locaux d'Alliance Santé. C'est un pisciniste qui arrive et qui veut refaire toutes ses enseignes. On lui a dit, prenez contact avec Métropole et anticipez. Anticiper, c'est pas la peine qu'ils mettent deux fois la hauteur en publicité lumineuse sur sa toiture, puisque de toute façon, il sera obligé de défaire. Donc voilà, intégrer par anticipation les règles, comme ça, vous serez tranquille. Donc par rapport à ces donc extinctions de créances, qui est contre, qui s'abstient? Tu t'abstiens, Corinne? Qui est pour, à l'unanimité, c'est adopté. On va passer au point 8, qui est un moment fort dans l'année, qui est celui des subventions aux associations. Et donc, je crois qu'il va y avoir une présentation à deux voix, entre Rémi Mounier et Mireille Papin.
Alors bonsoir, donc nous commençons par les associations des écoles. Je rappelle que l'on donne 400 euros par classe, ce qui fait que pour la primaire Jules Ferry, ce sera 2000 euros, la primaire Georges Sand, 2000 euros, et la maternelle Georges Sand, 800 euros, alors qu'on avait donné 1200 euros en 2021, mais à la dernière rentrée de septembre, il y a eu une classe de supprimée, donc il y a une classe en moins. Maternelle Jules Ferry, 1 200 euros. Primaire Jean Massé, 1 600 euros. Maternelle Jean Massé, 800 euros. Et toujours donc cette petite somme accordée à la DDEN, 150 euros. On passe ensuite aux actions culturelles. Déjà les écoles.
On va voter par séquence.
Ouais.
Mais donc, ça. Qui valide donc.
Alors, les actions culturelles, donc l'Arche des Cœurs de Saint-Prié, dont nous avons le président dans nos membres. Donc, Michel, tu ne votes pas. Voilà, donc ce sont les chœurs de Saint-Prié qui participent à la fête de la musique, aux différentes cérémonies, notamment le 19 mars qui nous a enchantés avec émus plutôt, avec le chant l'Algérie. C'est une subvention qui participe au salaire du chef de votre chef de. Non, un petit peu quand même, au départ c'était comme ça, hein. Ouais, on participait au salaire chef de chœur. Donc, on accorde une subvention de 1 800 euros. Donc, on va la voter, sauf Michel. Et pour. Voilà. On passe à l'harmonie municipale. Donc, qui participent aux mêmes événements que les chœurs de Saint-Prié. Nous, on participe en plus aux frais liés aux concerts, week-ends de travail et rencontres avec d'autres chorales. Et donc, on accorde une subvention de 3 000 €. On peut passer à la bibliothèque de l'hôpital Nord. Donc, la bibliothèque de l'hôpital Nord, c'est cette association qui passe dans les services pour proposer des livres ou des cassettes ou également des abonnements. Donc, c'est l'aide apportée pour ces différentes tâches et on leur attribue 700 €. Astromia, oui. Oui, tes membres. Donc ensuite, nous passons à Astromia 42. Donc là aussi, Michel, tu t'abstiendras. Donc c'est une association pour les étoiles et pour l'étude du ciel. C'est à destination des familles et des plus jeunes. On rappelle, alors, ils ont tendance à proposer, à participer à de plus en plus de grands nombres d'événements, les Jeudis de l'astronomie. Il y a les animations au Pôle Enfant Jeunesse depuis l'année dernière. Il y a l'organisation de la Nuit des Étoiles, qui est une grosse organisation. Et puis, ils vont participer à la fête du Clos. Il y a aussi un projet avec la bibliothèque, la médiathèque, qui va être étudié et qui va déboucher sur certains mardis soirs, je crois. Donc pour Astromia 42 et sa belle énergie, 500 € de subvention. Le club photo. Donc le club photo qui était à la Villa Saint-Michel, dans les caves de la Villa Saint-Michel, a déménagé au Clos Bayard. Et donc on souhaite leur apporter une aide pour le rachat de matériel qui a été, ils ont eu pas mal de rachats de matériel, de cadres. C'est une association qui participe, qui est en lien avec les clubs photos de Saint-Étienne et de Beaulieu. Ils font des expositions, ils font un vernissage à Saint-Prié. Donc pour eux, 800 €. Le club des chiffres et des lettres. C'est une petite subvention qui est accordée essentiellement pour l'achat des coupes lors de l'organisation du tournoi national et qui s'élève à 200 €. On peut peut-être voter déjà toute cette partie.
Pour le club photo, vous avez vu qu'en dernier, il n'y avait rien dit. Donc là, on... Oui, donc l'an dernier, il n'y avait rien eu. Donc là, on les a quand même installés dans des locaux qui sont très fonctionnels et modernes par rapport où ils étaient. Dont acte, il a fallu qu'ils réinvestissent un petit peu dans du matériel. Donc c'est sûr qu'on ne les soutiendra pas forcément tous les ans à hauteur de ce qu'on leur donne cette année.
Merci. Donc ensuite, ce sont les associations pour l'animation de la commune. Donc, on commence par la plus grosse subvention qui est les œuvres sociales de la... c'est la convention, oui, d'accord. Bon, très bien. Saint-Prié Animation, donc action pour organisation du 14 juillet, la fête de la citrouille, marché de la création, le carnaval. On leur accorde 800 €. Et là, oui, mais Corinne, toi, tu n'es plus dans le bureau. D'accord. Les Saint-Prié de la Loire. Donc, on y avait un rassemblement qui devait être, qui était organisé le dimanche de neige, le 2 avril, et qui est reporté au 2 octobre, au Crozet. Donc, pour les aider dans cette, pour aider l'association, on accorde 200 €. Le Club de la Joie de Vivre. Donc c'est l'organisation pour nos seniors, des goûters, repas, sorties, matériel pour les jeux. On leur accorde 2 500 €. Ensuite, les actions de... Ah oui. Ensuite, les associations de solidarité. Donc, nous commençons par Ayelou, qui est une association pour le commerce équitable péruvien pour lutter contre la pauvreté qui a été aggravée avec la pandémie, où notamment l'association avait des difficultés pour faire entrer de la marchandise. Parce que c'était très, il n'y avait plus les personnes auprès de qui les petits artisans auxquels elles achetaient des affaires ne vendaient plus. Ils se sont encore appauvris un peu plus. Donc le stock de l'association était très bas, mais là je crois que ça reprend et il y a des commandes qui sont en cours. Et puis au Pérou, ben, il n'y a plus de tourisme en 2021. Donc c'est quand même un pays qui vit énormément avec le tourisme. Nous leur accordons une subvention de 800 euros. Il est à signaler que, alors, étant donné que le club photo est maintenant à la MDA, les locaux qu'ils occupaient, enfin les... le local qu'ils occupaient va être libéré et qu'on va très certainement l'accorder à Yelou, qui loue un garage dans Saint-Prié. Et donc, ça sera pour eux une économie qui leur permettra aussi d'être un petit peu plus à l'aise. Le collecton, donc c'est l'organisation en faveur du Téléthon, essentiellement le tournoi de foot, 300 euros. La banque alimentaire, hein, donc c'est un soutien à la mission de solidarité dans la lutte contre la précarité alimentaire, 700 euros. Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, c'est à peu près pareil, hein, ce sont des actions, des aides auprès des personnes en difficulté, 1000 euros. La FNACAR, donc comité des anciens combattants d'Algérie. Donc c'est aide à l'animation de la section, 1000 euros. La compagnie des chats, donc intervention vers les chats errants dont s'occupe Antoine tout au long de l'année. Donc c'est porter une aide financière pour les soins et la castration des chats quand on arrive à les attraper. On leur a fait une belle cage, peut-être que maintenant ça va mieux. Et l'identification. 300 euros. Le comité de jumelage. Donc, c'est les actions en faveur de la santé scolaire à l'île Sainte-Marie pour alimenter les cantines, les fournitures scolaires également, le riz. Donc, ce sont eux qui font un après-midi jumelage et des ventes d'épices pour aider. Et on verse une subvention de 16 500 euros. Comité de jumelage. Le Secours Populaire, donc c'est aussi un soutien à l'association pour sa mission d'accompagnement à de nombreuses familles victimes de pauvreté également, 1 200 euros. Et je vous demanderai d'approuver, si vous êtes d'accord, ces subventions.
Donc je récapitule, Ilou, 800 euros, le collecton, 300, la banque alimentaire, 700. Alors, la banque alimentaire collecte des denrées, mais elle ne fait pas la distribution directe. Par contre, la conférence Saint-Vincent-de-Paul distribue des denrées qui lui sont en particulier fournies par la banque alimentaire. Donc, 1 000 euros pour Saint-Vincent-de-Paul, 1 000 euros pour la FNACA, 300 euros pour la compagnie des chats, 16 500 pour le comité de jumelage, ça veut dire qu'on revient à un niveau de subvention annuel comme par le passé, puisque l'an dernier, on avait fait un effort particulier, et le secours populaire pour 1 200 euros. Qui est pour l'attribution de ces subventions. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Merci.
Maintenant, concernant Rémi Mounier, bonjour. Concernant les actions sportives, donc vous constaterez sur la liste qu'on a pas mal de maintien de subventions entre 2021 et 2022. Moi, je vais revenir sur cinq cas précis. Notamment pour ce qui concerne le self-foot et l'avenir du bois Monzil. Donc vous voyez, ce sont deux subventions qui sont en augmentation par rapport à l'année passée. En fait, c'est pas une augmentation, comme l'a expliqué Monsieur le maire juste avant. Ce sont des associations qui avaient joué le jeu l'année passée à l'effort Covid qu'on avait demandé et qui avaient baissé en 2021 parce que leur activité avait été moins importante, leur demande de subvention. Et là, sur 2022, donc avec les 11 000 pour le foot et les 700 pour l'avenir du Beaumont-Zil, on revient à des subventions qui étaient traditionnelles jusqu'à aujourd'hui. La troisième association sur laquelle je veux revenir, c'est la gymnastique volontaire, puisque c'est une de nos associations qui est aujourd'hui le plus impacté par une reprise compliquée post-Covid, puisque l'année 2021 a été très compliquée, avec beaucoup de cours annulés, déplacés, ce qui a eu de raison des nouvelles adhésions cette année. Et c'est assez compliqué pour eux de reprendre, on le sait, sur ces typologies d'activités où les personnes sont passées à autre chose, où elles hésitent avant de reprendre leur licence, bien que eux avaient prévu pas mal de choses, et notamment tous les adhérents qui n'ont pas eu de cours ont tous été dédommagés. Pour autant, voilà, la reprise est un peu plus compliquée, donc on soutient un peu plus l'aide à cette association pour maintenir malgré tout les salaires des éducateurs, puisque aujourd'hui les salaires n'ayant pas le nombre suffisant de personnes par cours, on n'a pas de possibilité de couvrir le salaire avec les adhérents. Donc on passe à une subvention de 2000 euros. Concernant les unités de Chardens, on a une augmentation aussi de la subvention qui passe de 1200 à 2000 euros. Là, c'est lié à deux éléments. Le premier est que l'association est toujours en pleine réussite et remporte régulièrement des trophées au niveau national qui engendrent des déplacements assez coûteux. Et en plus, cette année, ils ont trois adhérents, trois membres de l'association qui est qualifié en équipe de France pour partir aux États-Unis pour aller représenter la France sur une compétition internationale de cheerleading. Ces trois personnes nous ont demandé de les soutenir, hein, puisque c'est du niveau amateur. On ne peut pas verser de l'argent directement à ces personnes, mais on a, par le biais de cette subvention qui est légèrement augmentée, participé un peu par le biais de l'association à la promotion de l'association et de ces trois personnes-là qui vont représenter la France aux États-Unis. C'est bientôt, là, c'est fin avril qu'ils partent. Et enfin, donc, la dernière association, c'est la subvention donc, que vous voyez un peu plus bas qui concerne le Cercle Prolétaire. Les 1 000 euros et 3 000 euros de subventions exceptionnelles qui étaient demandées. Aujourd'hui, on a demandé quelques éléments financiers complémentaires à cette association que nous n'avons pas encore reçus. On a prévu aussi de rencontrer l'association. Donc, on met en suspens cette demande de subvention aujourd'hui en attente de production de ces éléments financiers, de les avoir rencontrés. C'est une subvention qui, quand on aura tout reçu, qui passera sûrement sur les prochains conseils municipaux. Donc, en résumé, pour les associations...
Pour la gymnastique volontaire, Emita, il y a 500 euros de prévu en subvention exceptionnelle. Pour la gym volontaire.
Oui. Oui, oui. C'est pour participer cette année aussi à la création de cette section enfants. Qui n'a pas rencontré le succès espéré. Villars, la gymnastique volontaire de Villars a une section enfants qui marche très très bien, même qui est plein toutes les années. À Saint-Prié, ils ont essayé de lancer ça. Hélas, sur la première année, ils ont trois enfants. Donc ils essayent de voir si c'est lié aux horaires ou autre, mais ça a été assez compliqué. Donc là aussi, ils ont été obligés, les 500 euros, c'est surtout pour le matériel. Ont été obligés d'acheter dans le cadre de cette section enfants. Donc en résumé, sur les subventions à action sportive, donc 9000 euros pour le basket, 300 euros pour le volley, 11000 euros pour le foot, 1000 pour la gymnastique volontaire et 500 de subventions exceptionnelles, 6000 euros pour la natation, 5500 euros pour le tennis, 2 000 euros pour le tennis de table, 2 000 euros pour les chair dance, 800 euros pour le club de cyclo sarbacane, 1 500 euros pour le club d'escalade, 1 000 euros pour le cercle, 700 euros pour l'avenir du bois Monzil, 400 euros pour le groupement bouliste, 1 000 euros pour la boule des Trois Glorieuses et 250 euros pour les 1000 pattes monardes.
Vous avez bien compris que pour le prolétaire, il ne s'agit pas de ne rien leur donner, ni en fonctionnement, ni sous forme exceptionnelle. Ils ont été confrontés à des difficultés financières et organisationnelles très importantes. Donc ça se clarifie. On va voir un petit peu comment les... Alors, ils attendaient aussi des remboursements de la part des impôts sur des salaires et charges pendant les périodes de fermeture. Donc ça, apparemment, il semble que ce soit réglé. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une situation financière plus positif que ce qu'ils pouvaient prétendre. Donc on souhaite les rencontrer avec ces éléments-là et puis avec le bureau aussi pour savoir exactement comment ils voient les choses. Donc c'est simplement un sursis à statuer pour leur subvention. Donc pour ces associations sportives, qui est pour, donc à l'unanimité. Merci.
Merci. Donc maintenant, il nous reste les actions sur la vie sociale. Donc les jardins familiaux, donc là, ça ne change pas, 600 euros. Hein, on les aide pour un peu l'organisation de leurs manifestations et les achats d'hiver concernant les jardins. Le club des entreprises Mounardes, le CECAM, donc, qui vient d'élire une nouvelle présidente. Il y a un nouveau bureau, la présidente, c'est Mme Vazille. Ça a l'air de bien redémarrer. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Ce qui fait que donc on leur accorde 1 000 euros pour le fonctionnement et ils veulent créer un site internet, création d'un annuaire d'entreprise, actualité sur la commune, actualité du club. Et on leur accorde une subvention exceptionnelle pour la création de ce site de 1 000 euros. Et enfin, perles, tissus, évasion. Donc, c'est de la couture créative, carterie, cartonnage, participation aux frais de fonctionnement, 700 euros.
Voilà. Donc, pour ces subventions, qui est pour, à l'unanimité, elles sont accordées. Et il faut rajouter un forfait, c'est pour les actions, donc les voyages qui sont organisés par les écoles. On participe à hauteur de 20 euros par enfant, c'est ça ? Pour la France, département séjour en France, et 40 à l'étranger. Voilà pour ce qui est donc des subventions à la vie sociale et sportive et culturelle. Des remarques par rapport à ça ? Donc on va pouvoir passer au point suivant, qui est donc la... Alors, le point suivant, c'est le COS. Et je passe la parole à Mireille.
Merci. Voilà. Donc, Monsieur le maire expose, conformément à l'article 10 de la loi 2321 et à l'article 1 du décret 2495, l'autorité administrative qui attribue une subvention supérieure à 23 000 euros doit conclure une convention avec l'organisation de droit privé qui en bénéficie. Le comité des œuvres sociales de la mairie bénéficie d'une subvention supérieure à ce montant. Il convient aujourd'hui d'approuver cette convention financière jointe pour l'exercice budgétaire 2022 pour le versement d'une subvention de 25 500 euros au COS et d'autoriser M. le maire à signer ce document. Donc le COS, on rappelle, sont les œuvres sociales de la mairie qui font des actions auprès du personnel mairie selon les événements. Triste ou gai, décès, naissance... qui organise des voyages, différentes sorties pour les membres du personnel. Donc cette convention, c'est la même que tous les ans, c'est-à-dire elle engage la ville de Saint-Prié, l'association du comité des œuvres sociales, sur donc cette subvention que la mairie doit, va leur verser, sur une mise à disposition de personnels municipaux, une mise à disposition des bâtiments. Et l'association, en contrepartie, donc, elle présente les documents financiers et administratifs qui rend compte de son activité de l'année. Et elle présente un bilan des activités qu'elle a pu réaliser avec cette somme. Voilà. Donc la présente convention est consentie et acceptée pour la durée de l'exercice budgétaire 2022.
Alors le COS, Comité des œuvres sociales, ce n'est pas un comité d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une association à adhésion libre. Ce qui fait qu'il y a des agents et des retraités. Il n'y a pas eu aucune obligation d'y adhérer. Donc ils définissent dans le cadre de leur assemblée générale les modalités d'intervention. Ça peut être un séjour, je crois que au mois de mai... Ça fait 2 ans qu'ils reportent le séjour qui doit être en Belgique, à Bruges, je crois, puisque les 2 dernières années, avec le confinement, il n'a pas pu être réalisé. Et là, on retrouve aussi bien des actifs que des retraités. Deuxième élément quand même, là, c'est une subvention de fonctionnement, c'est la même depuis des années. Il y a un autre accord, on le verra peut-être en fin d'année, c'est le COS qui verse les indemnités, les primes, pour les départs en retraite et les médailles. Mais là, c'est une articulation. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, ça avait été évoqué au moment du contrôle de la Chambre régionale des comptes. C'est une mécanique qui avait été mise en place à une époque de, avant les années 2000, pour que la mairie n'ait pas, elle, directement en charge ses avantages en nature au personnel. Donc, chaque année, en fonction du nombre de médailles et des départs, le COS donc, fait des petits cadeaux et la mairie rembourse en subvention exceptionnelle le COS. Et l'an dernier, comme le COS avait une trésorerie inhabituellement satisfaisante puisqu'il n'y avait pas eu d'action, le montant de la participation était limité à 2000 euros. Donc, le COS a pris en charge une partie du financement direct de ses actions. Des questions par rapport à la convention et à la subvention ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on reconduit la convention et la subvention qui va avec. Je vous en remercie.
Oui, alors la délibération suivante est une décision modificative très très importante pour le service des pompes funèbres. Vous savez qu'on a voté le budget à la dernière réunion de conseil municipal et on est obligé de prendre une décision modificative numéro 1. Parce que tout simplement, l'excédent de fonctionnement... le corps administratif donc présente un excédent de fonctionnement de 967,95 € et le budget primitif, on s'est trompé, on a fait état d'une reprise d'un excédent de 966,95 €. Donc on est obligé de faire une décision modificative pour 1 euro. Voilà. Donc, je ne sais pas, il va falloir réfléchir très longtemps, mais voilà. Non, en fait, il y a eu une erreur matérielle et effectivement, la préfecture nous l'a fait remarquer. Donc, on est obligé de corriger par décision modificative. Donc, on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, merci. On va aborder maintenant le point relatif au tarif des séjours organisés. Et je crois que c'est Sylvie qui va nous présenter le document.
Oui, bonsoir. Donc, du coup, comme chaque année à la même époque, on va vous présenter l'augmentation des tarifs des séjours qui sont organisés pour les enfants de la commune. Comme chaque année, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la commune organise des activités pour les enfants de la commune durant les vacances scolaires, en séjour et en centre de loisirs. Donc la participation demandée aux familles varie en fonction de leur faculté contributive et elle est fixée par le conseil municipal selon 5 barèmes et elle est en relation avec les engagements de la CAF de la Loire. Il convient donc de fixer dès à présent le prix de ses séjours et du centre de loisirs. Donc, ceci afin de pallier l'augmentation du coût des activités, les tarifs subiront une légère augmentation. Donc, les participations des familles seront la suivante. Donc, tous les prix ont augmenté de 3%. Voilà. Concernant le RAID, je ne vais pas vous détailler, mais il n'y a pas... Il n'y a pas eu d'augmentation par rapport à l'année précédente, puisque l'année dernière, il n'y en a pas eu. Et ensuite, vous avez, pour les séjours d'été, donc la participation qui est demandée aux familles s'échelonne de 260 € à 97 €, qui est le prix plancher. Ça, c'était pour les 6-15 ans. Et ensuite, pour les plus grands enfants, 15 à 17 ans, la participation des familles s'échelonne de 337 € et le prix plancher est à hauteur de 120 €. Ensuite, pour les tarifs du centre de loisirs, donc, ces tarifs seront applicables à la rentrée de 2022, c'est-à-dire le 29 août. Il y a deux tarifs, donc un tarif pour les habitants de la commune et un tarif pour les autres, les extérieurs. Donc là, c'est pareil, les tarifs sont compartimentés en fonction du quotient familial. La plus petite participation est demandée aux familles donc, qui ont un quotient familial inférieur à 500 et... La plus haute participation qui est demandée, c'est pour les familles qui ont un quotient familial qui est supérieur à 2 000 €, à 2 000. Voilà, c'est tout. Merci.
Donc vous voyez que pour un quotient familial inférieur à 500 €, on est à 6 €. Non, 5 € la journée et environ 15 € pour ceux qui ont un quotient familial supérieur à 2 000 €. Donc voilà, les quotients sont référencés par la caisse d'allocation familiale. Et donc là, on vous propose simplement une actualisation de l'ordre de 3%. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, Rémi ?
Je voulais juste rajouter des précisions concernant l'augmentation de ces tarifs. On est obligé, année après année, d'augmenter ces tarifs puisqu'on constate, nous, que les prestataires chez qui on va envoyer les enfants augmentent leurs tarifs année après année. Et cette année, on subit de plein fouet aussi l'augmentation des tarifs liés au transport puisque le prix du carburant ayant flambé ces dernières semaines, ces derniers mois, on subit de plein fouet. Donc on a pris depuis quelque temps la mesure d'augmenter de 3% dans le tarif payé sur les séjours. Toujours pareil, on a une répartition entre le prix payé par les familles, le prix, la subvention donnée par la CAF et puis le restant à charge de la commune. Donc on essaye d'équilibrer au mieux. On voit que malgré tout, on arrive à sortir des tarifs un peu pour les barèmes les plus élevés, à environ 300 € sur une semaine l'été, à peu près équivalent sur l'hiver. Donc on reste quand même dans des tarifs pour les familles qui restent très, très intéressants. Et pareil pour l'accueil du centre de loisirs où, année après année, on est aussi, par rapport à ces tarifs, limité en action. Aujourd'hui, on est obligé de limiter à assez peu le nombre de sorties et autres parce que les coûts indirects liés à ces sorties, comme je le disais tout à l'heure, transport et coûts prestataires, sont toujours plus importants. Donc on est obligé de suivre ce trend, sinon demain, on pourrait carrément plus rien faire au centre, si ce n'est rester au Clos Bayard, qui est un parc qui est très intéressant, qui donne beaucoup de possibilités, mais à un moment, et notamment l'été, pendant 4 semaines durant pour les enfants, c'est bien de pouvoir aller leur faire voir autre chose.
Oui, je voudrais juste, Corinne Mourgue, d'abord vous dire que je connais le travail qui est important par rapport aux contraintes fixées par la caisse d'allocation familiale. Et donc, je sais tout l'intérêt qu'il y a à moduler ces tarifs et utiliser le quotient familial. Et juste si on peut un jour, lors d'un bilan, peut-être nous donner en regard quelle proportion d'enfants on a dans quel type de quotient. Peut-être un petit tableau récap qui nous dirait comment sont répartis les enfants de la commune sur ces divers coûts. Voilà, juste pour éclairage.
On l'avait fait l'année passée. On l'avait fait l'année passée et de mémoire, on était en très forte majorité, je crois que c'était sur les barèmes 3 et 4. En très forte majorité sur les barèmes 3 et 4, il y avait très peu de personnes sur les barèmes 1. Et puis après, entre le 2 et le 5, c'était réparti, mais la plus grosse majorité. Alors c'est toujours pareil, des participants au séjour. Et alors on a quand même des différences entre les participants au séjour et l'accueil centre loisirs, mais on était voilà, entre 2 et 4, on était sur les trois quarts de la population. On pourra le redemander précisément cette année, sur une fois qu'on aura arrêté les séjours, qu'on aura tous les dossiers, on pourra le redemander effectivement.
On fera un petit point là-dessus à la rentrée. Autre élément à la revalorisation, je dirais, des tarifs, des services non obligatoire, c'est que on augmente la taxe foncière pour les propriétaires. Donc là aussi, il y a une cohérence d'ensemble de dire bon, on a des propriétaires qui ne profitent pas forcément de l'ensemble de ces services. Dans la mesure où on demande un effort à chaque contribuable, il est aussi logique que les tarifs des services, on va dire optionnels, évoluent également. Comment ? Ben, c'est optionnel parce que tu n'es pas obligé d'en bénéficier. Il est essentiel pour certaines familles, mais il ne l'est pas pour l'ensemble de la population, c'est ce que je veux dire. C'est cette notion d'option que je voulais simplement préciser.
Prestation de service qu'on met à disposition, et toutes les communes ne sont pas, et d'ailleurs ne le font pas, ne sont pas obligées de le faire. Donc effectivement, il est essentiel pour les familles qui ont ce besoin. Il peut effectivement être tout à fait considéré comme optionnel par rapport à l'ensemble de la population qui n'y a pas automatiquement accès de par le besoin.
D'autres remarques par rapport à cette actualisation des tarifs ?
Non, le tarif le plus bas, on ne peut pas le bouger. Il est fixé par la CAF. Donc le tarif le plus bas, c'est le seul qu'on ne peut pas modifier. On peut agir que sur du barème 2 au 5. Le barème 1, il est fixé par la CAF et il reste identique. Alors après, on est obligé de s'y tenir. Maintenant, encore une fois, l'accueil extérieur est restreint au fait qu'il reste de la place sur la place d'accueil.
D'autres questions par rapport à ces actualisations de barème ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, les nouveaux barèmes sont adoptés à l'unanimité. Dans les questions diverses, je voulais faire un point sur la situation terrain du Charpenais à Gorastor. Vous savez qu'on avait testé une formule de vente aux enchères du terrain du Charpenais pour voir un peu comment ça se passait, pour mesurer aussi l'attractivité de notre territoire et pour voir ce que vous pouvez valoir un terrain comme ça en sortant du cadre de notre environnement immédiat. Il y a eu 54 enchères sur cette vente aux enchères. Je vous rappelle quand même que nous n'étions pas contraints de vendre et surtout pas aux plus offrants. L'estimation des domaines était de 196 000 euros Et la dernière enchère a été de 305 000 euros. On a même eu après une proposition d'achat hors enchère en nous disant ben, l'enchère principale est à 305 000. Moi, je mets 10% de plus, 335 000, sans obligation de m'accorder un permis de construire. Formidable. Alors, après, Agorastore nous a fait un retour. Ils ont analysé les 5 propositions les plus intéressantes. Enfin, les plus intéressantes. Ça allait donc de 305 000 à 203 000. Alors, 203 000, on tombait en dessous, hein, mécaniquement, de l'évaluation des domaines. Les deux premières, qui étaient à 305 000 et à 303 000, étaient deux projets qui associaient soit que des immeubles. Donc, à 303 000, c'était deux immeubles pour 18 logements. Et à 305 000, c'était un immeuble de 6 logements et deux petites maisons. On s'était dit que, de toute façon, cette logique d'immeuble, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas décemment envisager. C'est sûr qu'à 300 000 euros, pour un promoteur, il faut optimiser le nombre de logements. Alors, pourquoi il ne fallait pas retenir cette option? Parce que dans le contexte qu'on a connu avec le Charpenais, où il y a en fait une continuité, je crois qu'il y a près de 160 habitations individuelles, ça aurait été délicat d'y accoler un immeuble, surtout que, vu la configuration du terrain, ça amenait quand même beaucoup d'interrogations. On est allé voir aussi ce qu'il y avait derrière ces propositions. Donc, dans les deux cas, 305 000 et 303 000 euros, c'était deux SAS, dont l'une avait 8 mois d'existence et l'autre 15 mois, avec un capital social de 1 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, c'était des agents immobiliers, tout simplement, qui étaient à Lyon. Donc, on s'est dit, on ne va pas s'engager dans cette voie-là, parce que de toute façon, ces structures-là n'auront jamais la capacité financière d'acheter, mais également derrière de construire. Donc, on a abandonné, ces propositions. Donc, on a, achevé la tentative aux enchères. On va rompre la convention avec Agorastore pour pouvoir maintenant remettre ce terrain en vente, et je le dis bien haut, pour remettre ce terrain en vente avec des opérateurs qui viendront nous trouver, qui nous feront des propositions. Là aussi, nous serons très attentifs au programme, au projet. Alors on sait qu'il y en a certains qui, peut-être, avaient déjà envisagé des petites maisons. Enfin, on va voir. On va respecter le cadre de la convention avec Agorastore. Vous savez que si c'était un enchérisseur qui venait nous trouver, etc., il fallait recalculer, etc. Donc là, on clôture le dossier Agorastore dans les délais légaux. Et on va, bien sûr, ouvrir une nouvelle négociation beaucoup plus directe. Cette fois-ci, je pense, avec des opérateurs locaux beaucoup plus fiables et crédibles que ceux qui s'étaient amusés à soumettre des enchères. Voilà. Ça, je tenais à vous le dire. Donc, parce que c'est un dossier qu'on n'abandonne pas, évidemment. Et je pense qu'à partir du moment où on pourra dire maintenant, oui, il y aura 4 ou 5 petites maisons, bon, les détracteurs resteront peut-être les détracteurs, mais au moins, il y aura une cohérence, puis ce sera la continuité de ce qui existe déjà. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, on a un logement, vous savez qu'en face, l'école Jules Ferry, il y a un bâtiment, un immeuble de 8 logements. Qui était dédié initialement aux enseignants et qui maintenant héberge du personnel municipal ou des retraités de la mairie. Et on avait un appartement qui n'était pas en état, franchement, d'être loué. Donc là, on s'est dit que comme on avait accueilli une famille ukrainienne, hein, je vous le rappelle, on a une famille qui réside sur la commune, dont la dame est d'origine ukrainienne, elle a Madame Juéry. Bon, vous avez eu les informations sur les sites pour les dons, etc. Donc on a eu quand même 3 camionnettes qui sont parties avec la collecte organisée par la mairie et par l'association Madame Juéry. Elle a pu faire venir sa mère de 88 ans, sa sœur et sa nièce à Saint-Prié, donc en provenance de Kiev. Et on s'est dit, ce logement, on va le réhabiliter et on va pouvoir le remettre à disposition. Donc là, sur les gros travaux, c'est en fin de réalisation. On a changé l'évier, on a un certain nombre de travaux. Il va rester du travail de peinture. Donc là, je crois qu'on a des élus qui sont tout à fait aptes à prendre en charge cette fin de chantier. Et puis après, on vous sollicitera sans doute Si vous avez du petit mobilier, on fait une petite liste de ce qu'il faut, du petit mobilier pour le meubler, puis après on le mettra à disposition. Donc on verra nous concrètement la forme à privilégier pour cette mise à disposition. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure dans le bureau métropolitain, c'est que sur la Loire, toutes les familles ukrainiennes qui arrivent officiellement, donc via, on va dire, le ministère de l'Intérieur, sont prises en charge par l'entraide Pierre Valdo. C'est l'association qui a été labellisée par la préfecture pour gérer ces situations, qui ont des moyens, qui ont des intervenants russophones, qui ont des logements, qui mettent en place actuellement des filières pour de la formation, pour de l'apprentissage rapide du français, etc. Donc on va voir si pour cette famille qui apparemment n'est pas passée par ce filtre, il n'y a pas nécessité peut-être de la remettre dans le champ, parce que ça pourrait quand même être intéressant qu'elle soit labellisée.
Juste pour information, Rémi Mounier, la nièce donc, de cette personne, on va l'accueillir au centre de loisirs là, pendant les vacances de Pâques, pendant je crois que c'est 4 ou 5 journées, et accueil pris en charge par la municipalité.
Et elle est scolarisée au collège, où là, ils sont arrivés je crois un jeudi, et je crois que dès le lundi, elle intégrait le collège. Voilà. Donc l'idée, alors ce sont des personnes, en tout cas la maman de 88 ans et également la jeune femme, veulent retourner en Ukraine, hein, mais pour l'instant c'est pas envisageable. Donc voilà, on vous tiendra au courant et on vous sollicitera si vous avez des, je sais pas moi, une table de chevet, des petites choses comme ça. Après on verra. Bon, il y a aussi, on peut faire appel aux associations humanitaires si on veut des mobiliers plus ciblés. Bon, par exemple, il faudra 3 lits. On va pas aller chercher 3 matelas comme ça dans des pots-ventes. Bon, il faudra qu'on... Au moins pour ce genre de mobilier, on trouve du neuf. Mais voilà, on vous tiendra au courant. La dernière question, avant de finir ce conseil et de vous passer la parole, c'est le conseil qui est prévu normalement pour le 9 mai prochain. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments constitutifs d'un ordre du jour. Donc c'est dans un peu plus de 3 semaines. Bon... La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on le maintient ? Alors, c'est sûr que si on avait, pour un conseil, il y a deux approches possibles. On a des dossiers qui arrivent et qui doivent être impérativement, dans un certain délai, évoqués. Donc, dans ce cas-là, c'est le conseil. Là, pour l'instant, on n'a rien. Donc, on avait prévu au départ de vous proposer le 9 mai les subventions. On vient de le faire aujourd'hui. Moi, je vous propose de considérer qu'on l'annule. Si jamais on avait des décisions, des sollicitations à prendre rapidement, eh bien soit on convoquerait un nouveau conseil exceptionnel avant celui de fin juin, sinon on concentrera toutes les décisions sur fin juin. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Se réunir, c'est sympathique, mais s'il n'y a pas de thème à traiter... Alors, ce qu'on fera aussi, et c'est le dernier point, hors d'un conseil municipal, parce que ce n'est pas le lieu, mais en assemblée plénière... L'idée, c'est qu'on puisse inviter M. Riva, l'architecte, pour qu'il nous explique un petit peu sa philosophie de l'urbanisme, en particulier dans tout ce qui est construction passive, comment il voit les choses. Et puis surtout, il aura déjà eu quelques temps pour réfléchir un petit peu à notre projet, voir quelles sont les tendances qui se dégagent. Donc là aussi, on va regarder sur les dates des plénières. Et puis en fonction de sa disponibilité, eh bien, on l'invitera. De la semaine prochaine. Oui, elle est annulée. Oui, oui. Alors, je le redis, celle qui avait initialement lieu la semaine dernière a été annulée pour qu'on fasse aujourd'hui un conseil pour valider le choix de l'architecte. Et la suivante, moi, c'est celle qui était prévue. Le 9, on supprime le conseil. Ben, le 2 mai, on va la mater, la plénière, puisque c'est celle où il y aura l'architecte. Non, mais t'as raison. moi j'avais noté qu'on parle. On a une plénière le mardi 7 juin et je me suis dit que c'est la bonne date pour recevoir la question. Et bien le 2 mai, je sais pas. J'ai bien compris. L'essentiel, c'est qu'on soit au moins une fois dans l'année, hein, bon. Mais je sais pas, moi, j'avais des trucs en début d'année. Alors, en juin, on a normalement une plénière le mardi 7 juin. Pourquoi pas lundi? Parce que c'est lundi 30 août. Voilà. Bon. Donc, on annule la plénière du 2 mai. On ne dira pas aux absents comme ça. Non, on va faire un petit mail quand même en rappelant. On va vous faire un petit mail avec les dates. Avez-vous d'autres questions?
Il n'y en aura pas. Il...